Bonjour tout le monde, bienvenue à Des bières et des gars. Je suis en compagnie de Pidou Lyon. Salut Pidou.
Salut à vous.
Et de Astro. Salut Astro.
Salut, ça va?
Et c'est Ready the Brown.
Personne m'a répondu.
Bah ça va, j'ai juste fait mon intro. Et bienvenue à Des bières et des gars, comme j'ai dit. Donc on va faire un premier tour de table rapide parce qu'aujourd'hui on a amené des bières. Ah!
Oui.
Donc, Pidou, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui?
Alors, moi, parce qu'on enregistre ce matin, donc je suis parti sur une bière sans alcool de la micro.
Il est 4 heures quelque part.
D'accord. Oui, c'est vrai, il est toujours 4 heures quelque part. Mais là, c'est la micro qui s'appelle bière sans alcool. Donc, on est sur une grande originalité, sur une blanche orange.
C'est une vraie micro?
Ouais, c'est une vraie micro.
C'est donc, comme ça s'appelle bière sans alcool.
Ouais, et c'est même traduit en anglais non-alcoolic beer derrière. Mais vraiment, ça s'appelle bière sans alcool, c'est basé à Montréal. Donc, voilà. Je me suis dit que j'allais démarrer là-dessus, ça sera assez léger. Et vous?
Moi, j'ai pris une Hefeweizen de chez Haber.
Cet accent était incroyable.
Hefeweizen, c'est une bière, je crois que c'est une bière un peu blanche, un peu légère. Elle est alcoolisée, quoi.
C'est
non,
ça.
Mais tu sais, elle est assez ronde.
Alors,
c'est
page 2018.
Alors, cuvée.
Elle a du retour, de la solidité. Attendez.
Il en a mis partout. Il vient de flood l'appartement en entier.
Ok.
Mais
ça commence bien.
Voilà. Et toi, tu bois quoi?
Oui, donc moi, j'ai une bière, parce que moi, j'habite en région, au Québec. Donc, j'ai une bière qui s'appelle la microbrasserie Barabas. C'est à Sainte-Barbe, au Québec, proche de la frontière ontarienne. Donc, c'est une session IPA qui s'appelle Baie des Brises, parce que les gens qui connaissent le Haut-Saint-Laurent et la région de Valleyfield connaissent la Baie des Brises. Incroyable. Donc, une bière
une
légère
ici.
Qui est le fun, qui est vivante comme la Baie des Brises.
Tout le Québec.
Donc, vu qu'on a fait le tour de nos bières déjà, je pense qu'on pourrait commencer
trinquer.
Notre... Bah oui, c'est vrai.
Trinquons déjà.
Allez.
Allez.
Voilà.
C'est très j'espère que ça s'entend,
ouais,
c'est très décevant.
Sinon, on
rajoutera en post-prod.
On a fait cling cling, c'est fait.
Voilà.
Vous savez pourquoi on fait cling cling?
Pourquoi?
Pourquoi on trinque?
Oui.
Moi, je sais pas.
C'est que Xiana, c'est une fake news. Hein. Je suis sûr que tu vas dire... Vas-y.
C'est pour le poison?
Mais non,
c'est quoi le poison?
Mais si.
Non, c'est
bah vas-y, c'est quoi toi? Moi, c'est ma prof de latin qui me l'avait dit, donc...
Je sais plus
mais
ce que
lui,
c'est
Internet, c'est un TikTok.
Mais ça fait appel à l'autorité, son prof de latin,
mais non,
tout
mais
de suite,
parce
on s'en fout, peut-être
oui.
Qu'elle dit de la merde.
Non, je crois que le truc du poison, c'était genre parce que visuellement, si tu regardes la personne que tu vas empoisonner dans les yeux, donc tu seras pas capable de le
non,
faire. Par contre, le fait de... Non, tu vas remettre jamais assez de poison.
C'est le symbole.
Mais t'en mettras jamais assez pour le flinguer, le mec.
Mais vas-y, c'est quoi, toi?
C'est juste... C'est bien.
Non, mais d'accord!
Mais c'est fou,
non, je suis désolé, argument d'autorité.
Non, j'ai plus la raison, mais je sais que le truc, c'est une fake news. Le truc
d'accord.
Parce que mais si on trinque comme ça, faut que je te verse vraiment. Faut vraiment qu'on se tabasse.
Non, mais c'est
pour
le principe, parce que ça vient de la même bouteille. Et donc, du coup, parce que normalement, tu verses
oui.
De la même bouteille ou de la
ouais.
Même amphore. Et quand on trinque, et étant donné que bah, c'est quand même un geste, et nous, on fait ça, on boit dans du verre, là, mais à l'époque, c'était des coupes en métal, donc
ouais,
ils y allaient
exactement.
Un peu plus franco. Et bah, justement, les liquides se mélangeaient.
Ok, donc il y avait comme les vagues, il y avait des vagues
voilà,
de bière qui se
faisaient.
Ok, je comprends ce que tu veux dire.
Bref,
un peu principe. Comme dans les films, avec le Moyen-Âge, un peu.
Voilà,
comme...
exactement. Mais c'est comme quand tu serrais la main. Tu sais, tu serrais le bras de telle manière à voir s'il n'y avait pas une lame qui était cachée dans la toge, en fait, de ton
les,
la personne
les,
à qui
les
tu serrais la main.
Pour moi, c'était vraiment juste les gladiateurs. C'était
ouais, c'est ça, moi aussi, je pensais.
Ça dans Spartacus, genre...
Moi aussi.
Ouais, alors quand Spartacus, ta référence historique...
Ouais, le film, ouais.
Sinon, ça va bien lier le thème du...
Donc oui, c'est ça, on va passer tout de suite sur le thème aujourd'hui. Ça va être un thème quand même assez large, parce qu'on voulait parler d'immigration, mais c'est parce qu'en ce moment au Québec, c'était quand? C'était mercredi ou jeudi?
Jeudi.
Si les gens l'écoutent dans 2 ans,
oui,
ça
bon,
n'a aucun sens.
C'est pas grave, mais jeudi de notre semaine, ce qu'on écoutait, le gouvernement au pouvoir en ce moment au Québec, la CAQ fait une réforme du PEQ donc, et de l'immigration au Québec, donc il va y avoir plus d'immigration francophone, on va essayer de choisir encore plus nos immigrants, parce qu'au Québec, le gouvernement peut rapidement, là, il peut choisir une partie des immigrants, même si c'est une province, donc... On va partir là-dessus, on va partir un peu sur un peu un retour en arrière, un peu du gouvernement qui a essayé il y a 2 ans de faire quelque chose et là qui fait un peu genre, ah, je crois pas que ça marche vraiment, donc on revient un peu en arrière. J'aimerais faire un tour de table au début pour voir comment vous le voyez tout ça, comment vous voyez le portrait de l'immigration peut-être au Québec du fait français. Et après ça, je pense qu'on peut aller en Europe, on peut aller en France avec la crise des réfugiés aussi. On peut aller aussi aux États-Unis avec le fameux mur, puis avec la nouvelle présidentielle américaine qui commence. Donc le sujet peut être large, donc on commence. Celui qui est prêt à se lancer, écoute, allez-y.
Ouais, mais je pense que ce qui est cool, c'est qu'on peut. L'immigration, tu sais, c'est un sujet qui est quand même vachement large. C'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on peut l'aborder de pas mal de manières différentes. Je pense que ça touche notamment le marché des travailleurs. Ça touche bah, évidemment la francophonie. Et c'est le gros, je pense, le gros enjeu en fait au Québec, c'est le fait de dire on a X immigrants francophones, X immigrants non francophones. Il n'y a pas que des anglophones. Il y a aussi ceux qui arrivent avec leur propre langue. Et voilà. Même si le Canada filtre quand même ceux qui ne parlent ni anglais ni français. Il y a cette idée de dire bon bah tu dois parler la langue officielle notamment au Québec. Puis je pense que c'est là où les partis un petit peu se divisent et ils ont leurs propres intérêts. On voit que les libéraux bah il y a les travailleurs économiques qui sont très importants pour eux.
Bah oui,
là exactement. Où bah pour le PQ ou la CAQ, donc PQ pour un peu les auditeurs français donc ouais.
C'est pas le papier toilette.
Voilà. Donc c'est le Parti québécois historiquement nationaliste indépendantiste,
séparatiste, indépendantiste, appelez-le comme vous voulez, c'est ça.
C'est ça.
Les séparatistes.
C'est les séparatistes de Star Wars.
C'est le seul gouvernement qui a fait deux référendums au Québec.
Qui a échoué deux référendums.
Oui.
C'était pas leur faute.
Non, il faut voir là, ils veulent réouvrir d'ailleurs le.
Ouais, les comptes pour voir comment l'argent a été dépensé.
Oui. Ça pourrait être très intéressant.
Ça pourrait être très intéressant de voir à quel point le gouvernement canadien s'est mis le bras dans l'engrenage très loin ou. Pas du tout. Donc, bon, je pense qu'on a quand même, une petite idée. Donc, c'est pour ça que. Oui. Surtout que c'est les gens du PQ qui veulent absolument ouvrir ça. Mais bon, oui, continue, vas-y.
Mais donc, ça, il y a la CAQ, donc Coalition Avenir Québec, qui elle aussi est un petit peu nationaliste, mais qui devient un peu le parti de l'économie. Hein, et elle remplit un petit peu un entre-deux entre le Parti libéral et le PQ, d'ailleurs.
Ouais, c'est vrai que c'est le but de la coalition aussi. C'est les gens du PQ et du Parti libéral qui sont
c'est
là.
C'est ça. Mais l'orientation qui était vraiment nationaliste au début, là, au lancement, aujourd'hui, on est quand même sur. Un gros truc économique, là, tu sais, baisse des impôts, attirer les investissements étrangers.
C'est un parti conservateur, c'est pas quoi qui s'appelle pas le Parti conservateur du Québec, qui est une autre entité. Ça reste quand même un parti conservateur, la CAQ. Ça reste un parti qui. Un parti de l'économie, c'est pas. Tu sais, c'est en ce moment au fédéral, on a le Parti libéral, c'est pas le Parti d'économie. Ceux qui essaient de se brander comme Parti d'économie ou comment on peut dire, ceux qui vont remplacer Trudeau, c'est le Parti conservateur parce qu'ils disent tout le temps c'est mal dépensé, tout ça, tandis que la CAQ essaie de. C'est bien resserrer le bas de laine des Québécois, essayer de bien tout refaire.
Bah oui, donc c'est ça. Donc c'est vrai que je pense qu'on a deux personnes aussi qui sont des immigrants dans ce podcast.
Et exactement.
C'est un peu, on est un peu peut-être aussi biaisé de ce côté-là, mais je pense qu'on a un peu.
Je pense pas que vous êtes biaisé, tu sais, parce que bon, newsflash, c'est pas moi l'immigrant ici. mais non, mais c'est que vous avez deux parcours qui sont pas les mêmes en ce moment, mais qui vont quand même se ressembler peut-être plus dans le temps, dans le sens que peut-être il y en a un qui est un peu plus avancé dans son processus, l'autre moins. Et je pense que vous avez quand même une bonne gestion aussi. Puis vous avez vu que ça fait quand même longtemps que vous êtes ici, parce que vous êtes arrivé aux études. Il y a quand même quelque chose qui. Vous avez vu des gouvernements passer, vous avez vu les fameux changements de la CAQ aussi là, qui a été fait là, au
Puis moi, je les ai pas subis. Lui, toi, ton parcours a été impacté par ça, parce que je pense pas que tu aurais fait le processus que tu as fait.
Non, c'est ça.
Si c'était le même PEQ que moi j'avais eu. Parce qu'en gros, ils ont fait une réforme pour la faire courte.
Ouais, essaie d'expliquer un peu quand même un peu qu'est-ce qui se passe.
En 2018, ils ont fait une réforme. En fait, avant, il y avait le programme de l'expérience québécoise qui était pour les étudiants et les travailleurs. Mais pour les étudiants, tu avais un diplôme d'une université francophone, enfin d'une université canadienne. Et en gros, tu pouvais directement accéder à la résidence permanente parce qu'en gros, il y a deux étages au niveau de l'immigration. Tu as provincial, fédéral. Et le Québec est la seule province au Canada à avoir un étage provincial pour demander la résidence permanente. Et donc, le programme de l'expérience québécoise te permettait d'avoir un accès accéléré à l'étage provincial pour avoir le papier qui s'appelle le CSQ, Certificat de sélection du Québec. Parce qu'en gros, Québec se réserve le droit. Non, CSQ. Non, c'est ACUS pour les étudiants.
Ah,
c'est acceptation du Québec.
Ah oui, acceptation du Québec. Ok, parfait.
Et genre, le CSQ, justement, parce qu'il se réserve le droit de sélectionner. Sauf qu'ils sont arrivés en 2018, complètement à côté de la plaque. Ils ont dit, maintenant, on va changer la manière dont on va sélectionner les gens. On va mettre des listes. Donc, ils ont mis des métiers qui n'existaient plus et des programmes qui n'existaient plus pour sélectionner les gens.
Par exemple, ouais, exemple
ils ont mis un exemple sur les travaux domestiques, qui était un baccalauréat offert, je crois, à l'UQAM, réservé aux femmes. Enfin,
dans les années 70,
dans les années 70, qui n'existe plus depuis les années 80. Tu fais,
génial.
N'importe quoi.
Allez vous faire foutre. Et surtout, ce qu'ils ont demandé, c'est de rajouter donc maintenant au moins un an d'expérience de travail et d'être à l'emploi au moment où tu demandes ton CSQ par la voie du PEQ. Et ça, ils sont revenus donc cette semaine. Si vous écoutez ça dans deux ans, ils sont revenus donc en 2023 sur ça pour dire on enlève tout et on va même encore plus simplifier. Juste, vous êtes diplômé d'une université francophone, voire même après pour le volet travail, ils l'ont encore plus simplifié, vous pouvez avoir accès directement à ça. Donc en fait, ils ont mangé leur chapeau à un niveau interstellaire qu'on a rarement vu ça, parce qu'ils ont vraiment fait une boucle pour revenir au même point. Et donc, moi, j'ai pas subi cette réforme-là. Donc, moi, j'étais sous l'ancienne réforme quand j'ai fait ma demande de résidence permanente.
T'avais une clause grand-père un peu.
Ouais, une clause grand-père de 6 mois. Ouais.
Bah, ça va, t'avais la clause grand-père. Mais oui. Une clause grand-père, c'est une clause grand-père.
Et toi, Pidou, toi, par contre, t'as modifié un peu, t'as pris un autre chemin pour ne pas avoir à subir ça. Parce que bah, c'est quand même fantastique de dire aux gens, vous êtes diplômé d'université québécoise qui, normalement, vous prépare au marché du travail. Non, 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 on vous demande de travailler. C'est-à-dire que toi, Mathis, oui. T'as le gouvernement considère que l'université te forme assez bien pour rentrer sur le marché du travail. Ouais. Moi, le gouvernement, comme je suis immigré, on a fait le même diplôme, considère que je ne suis pas assez bien formé.
Non.
Genre, donc, mais je dois prouver...
Parce que tu ne respectes pas la liste.
La liste.
La fameuse liste impossible.
Mmh. Oui, c'était une liste vraiment fantastique.
Agent secret, boucher, n'importe quoi.
Non, mais c'était genre des trucs qui n'existent pas ou qui... où les gens ne passent pas par des programmes universitaires.
Ouais. Mais genre ou alors pour être soudeur,
par exemple.
Genre, ouais, ça, c'est un DEP, bon, c'est un DEP en soudure. DEP, donc c'est juste
les trois quarts des soudeurs qui arrivent ici sont déjà soudeurs.
Oui, c'est ça. Voilà.
Ils arrivent en tant qu'immigrant économique, ils n'arrivent pas en tant qu'étudiant.
Puis, bon, à l'époque aussi, la pandémie a vraiment mis un gros accent sur la pénurie de travailleurs. Oui, là aussi,
vraiment.
Il y a toujours eu une pénurie. Moi, je suis arrivé au Québec il y a 6 ans et demi. Je voyais des hiring, nous embauchons partout. Tu sais, toujours... Là, on parle de pénurie de travailleurs, c'est pas dans le secteur tertiaire. Là, très actif le secteur tertiaire, mais il n'y a pas une pénurie. Pénurie, elle est vraiment dans les secteurs de la vente, les secteurs de l'agricole, le secteur industriel, etc.
Les ouvriers aussi beaucoup.
C'est ça, le secteur industriel est très impacté. Et justement, moi, je vois. Ouais, alors là, c'est terrible. Mais spécialement au Québec, ça aussi, c'est une différence. Il n'y a pas la même demande à travers tout le Canada à cause des salaires, à cause de beaucoup de choses. Mais ce que je voulais dire, c'est que ce PEQ. Ce qu'il a beaucoup modifié pour beaucoup d'entre nous, notamment en sciences humaines, c'est que tu avais certains diplômes très similaires en sciences humaines qui étaient certifiés comme acceptables pour le PEQ, mais pas d'autres. Donc, par exemple, sur votre maîtrise en sciences politiques et ma maîtrise en sciences politiques, qui n'a que la différence du fait d'avoir un stage à la place d'un mémoire, et ben moi, avec stage, j'étais accepté, mais avec mémoire, c'était pas accepté. Alors, heureusement, je voulais me diriger vers un truc avec stage, mais il n'empêche que j'ai beaucoup d'amis qui ont arrêté au bac, testé. Il y a toujours la question quand tu es immigrant de arrêter après le bac, faire ton parcours d'immigration jusqu'à la résidence permanente. Parce que attention, quand tu sors du permis d'études, quand tu as un permis de travail, tu ne peux pas étudier, même dans des micro-programmes, même dans des certificats.
Il faut que ça soit à moins de 6 mois. Techniquement, tu peux, mais tu vas rien faire avec des trucs de moins de 6 mois.
Moi, c'est marqué « ne peux pas étudier ».
Mais moins de 6 mois, quand tu n'as pas besoin de demander un permis d'études, tu peux étudier. Donc si c'est une formation express de 3 mois, par exemple… Tu peux le faire.
Ah, c'est intéressant.
Mais c'est tout. Mais c'est vrai qu'après, et surtout qu'à la sortie des études, le gouvernement fédéral a fait un truc vraiment bien, c'est qu'ils ont le permis de travail post-diplôme. Donc quand tu es diplômé, tu peux rester sur le territoire pour 3 ans. Permis de travail ouvert, donc tu peux travailler où tu veux, tu peux voyager. C'est genre le meilleur permis qui existe au monde, ce truc-là. Sauf qu'il est valable une seule fois. Tu peux pas le renouveler. Tu peux pas... tu peux rien faire, quoi.
Ouais.
Donc c'est vraiment... tu te poses vraiment la question de ok, est-ce que je prends ma seule et unique cartouche de permis de travail post-diplôme maintenant ou je la prends plus tard? Et moi, par exemple, je me suis dit à la fin de ma maîtrise, j'enchaîne pas sur le doctorat parce que j'étais un peu motivé pour le faire. Bon, après, il y avait la pandémie aussi, ce genre de trucs, mais non, parce que je vais faire mon parcours d'immigration pour avoir la résidence permanente et que ça soit plus problématique. Donc, oui, les gens, enfin, ce qui m'énerve avec les politiques d'immigration, c'est que souvent ils se rendent pas compte qu'il y a des gens, ça impacte des gens,
mais ça impacte les gens
à un niveau. Genre, c'est pas une baisse d'impôt qui va faire que tu vas perdre $50 par mois. Genre, c'est vraiment qu'est-ce que je fais de ma vie, sur quel continent je trouve que le degré d'impact, il est quand même plus élevé. Et ce que renvoie la CAQ, c'est ils ont pas conscience de ça. Ils se rendent pas compte des gens qu'ils impactent. Mais en tout cas, Simon Jolin Barrette, qui était le ministre à l'époque, a fait la réforme. Ça se voyait qu'ils comprenaient pas ce qui. Enfin, c'est terrible, je trouve.
Non, c'est ça, mais ils comprenaient pas, mais sauf que je veux ramener quand même un petit peu au. Parce que je pense que ça pourrait être une belle discussion, parce que oui, c'est. Pour le garder un peu plus politique, dans le sens que. Je pense que vous avez bien expliqué comment. Tu sais, comment vos parcours ont été impactés par ça. Mais, tu sais, si on se remet en 2018 avec la CAQ. Tu sais, c'est quand même.
On a gagné la Coupe du Monde, let's go!
Ouais!
Mbappé! La vraie chose qui s'est passée, c'est que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement conservateur, comme j'ai dit au début. Et ce gouvernement conservateur-là est arrivé avec ses grands chevaux en disant: ben, voici ce qu'on propose. Et, ben, j'ai dit tantôt 2 ans, mais c'est pas 2 ans, c'est 5 ans plus tard. 5 ans plus tard, se rendre compte de l'énormité de ce qu'ils ont fait. Et ils se sont rendu compte que. Ben, ils sont revenus, comme tu as dit, ils ont mangé leur chapeau un peu, mais ils ont vraiment backtrack, ils ont vraiment fait genre, c'est vraiment pas bon ce qu'on fait.
Mais les chiffres, en plus, les demandes de PEQ, ça s'est divisé par je sais pas combien là. Ils ont sorti un article récemment dans le Devoir, j'ai pas les chiffres.
Tu pars en
Vous verrez, j'ai souvent pas les chiffres.
Ouais. Mais j'ai lu l'article. Intéressant.
Et c'est genre un truc comme 3 ou 4 fois moins par rapport à l'année d'avant et 10 fois moins par rapport à l'année encore d'avant. Genre, en fait, ils ont dégoûté les gens. Ouais. Des gens qui viennent, qui payent des études, qui sont formés, parce que l'image, c'est trop dur d'immigrer. Donc, soit je me barre en Ontario, parce qu'en Ontario, c'est la province à côté, il n'y a pas d'étage pour faire ça.
Il
n'y
a pas de deuxième palier. Ouais.
En fait, pour les Européens, imaginez que la France, c'est le Québec, l'Union Européenne, c'est le Canada, et vous vous dites, la France a décidé de rajouter des étapes pour immigrer, et vous dites, bah, je vais aller en Italie, en fait, parce que mon diplôme, il est aussi valide, et il n'y a pas d'étage entre l'Italie et l'Union Européenne, mais entre la France et l'Union Européenne, il y en a un. Et cet étage-là, c'est un an. Et genre, un an, quand tu fais des démarches d'immigration, que tu mets 2000 balles sur la table, que tu n'es pas sûr... Ça
2000,
fait...
t'es gentil. Hein.
Genre, ça te crée une angoisse permanente pour genre tout ça. Bah, il y a des gens qui font ce calcul-là. Soit tu changes, soit tu vas ailleurs. En vrai, tu vas dans d'autres pays ou tu fais autre chose.
Mais
quoi.
Mais exactement. Mais sauf que moi, j'aimerais quand même mettre... Je veux mettre sur le fait qu'après 5 ans, ils ont quand même décidé... Parce que pour vrai, c'est un gouvernement quand même assez réactif dans le sens que c'est très rare au Québec que quand on fait une réforme, le même gouvernement va détruire sa propre réforme dans le sens que les gouvernements ici au Québec, on est assez dans « non, 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 ça fonctionne, c'est juste que vous n'avez pas vu sur le 10 ans ». Mais eux, après 5 ans, on fait « non, non, c'est mort, ils sont revenus ». Donc, je sais pas, genre, tu sais, on peut dire ce qu'on veut sur ce gouvernement-là qui est conservateur et tout ça. Et tu sais, il me rejoint pas autant que d'autres gouvernements, mais sauf que je le trouve quand même assez réactif dans le sens que il y a un problème, ils viennent quand même de dire quelque chose, ils s'en viennent dire de on revient parce que c'est ça la vraie le vrai problème en ce moment, on a besoin d'immigrants au Québec.
Je pense qu'il est ultra calculateur et c'est un gouvernement qui est malsain parce que pendant la campagne électorale qui a eu lieu en
2022,
septembre 2022, il a dit deux choses incroyables. Il a dit qu'il ne veut pas la louisianisation du Québec, autrement dit, qu'ils veulent pas qu'il y ait trop d'immigrants anglophones, ou en tout cas qu'ils ne parlent pas le français, parce que comme le reste du Canada parle anglais, même les immigrants, mettons un immigrant iranien ou un immigrant, italien, aura plus tendance à parler anglais, si tout le monde parle anglais au Québec, plutôt que d'apprendre le français, tu vois. Donc, c'est ce qui s'est passé en Louisiane notamment. Quasiment plus de français là-bas et de
francophones.
Et il a dit que si on augmentait les seuils d'immigration à plus de 50 000, c'est suicidaire.
Ouais.
Et en fait, pour moi, c'est malsain parce qu'il a fait le calcul de je vais taper sur les immigrants durant la campagne.
Oui.
Là, on est parmi les moments les plus loin de la prochaine campagne. Parce qu'on est dans les. On est à 3 ans de la prochaine campagne.
Ouais.
Et il fait genre, j'ai écouté, je me suis trompé. C'est-à-dire que pour se faire élire, il va taper et gagner des votes. Et après, il revient en mode, je me suis peut-être trompé, etc. Parce qu'il sait que les immigrants ne peuvent pas voter.
Ouais.
Et il a fait ce pari fantastique de voter contre de se faire élire contre Montréal, qui est un très bon pari, je trouve.
Parce que Montréal s'est déchiré entre les libéraux et Québec solidaire.
Je lui enlèverais la médaille de ses réactifs. Genre, non mais
c'est peut-être pas
c'est genre, pas bien
non, je sais que c'est pas cool bien, hein. que c'est pas cool et tout ça, mais dans le sens que oui c'est très calculateur, mais sauf que c'est quand même intéressant de voir un gouvernement qui est un gouvernement comme ça au Québec. Ça fait très longtemps qu'on a eu un comme ça et pour vrai vraiment pas cool pour les immigrants et pour la population, parce qu'il a menti un peu à la population en lui disant que je vais être un peu le bon père de famille, le bon grand-père québécois qui va tenir au loin les immigrants, tout ça, parce que tout ce qui par rapport à l'immigration, tout ça, c'est pas un problème, un enjeu très montréalais, très grande région de Montréal. Vous savez, vous allez souvent en région, on s'en va, vous allez à Sherbrooke, vous allez à Trois-Rivières, vous allez à Québec, vous allez à Sept-Îles, à Magog. Ça parle, à part s'il y a des petites pochettes d'anglophones, ça ne parle que français à 95%
en haut.
C'est ça,
donc l'immigration francophone est un enjeu. Donc, mais l'immigration, eux, ils en veulent parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre.
Oui, c'est ça, mais sauf qu'en même temps aussi, il y a leur clientèle. On voit la CAQ. La CAQ a été capable d'élire deux personnes sur l'île de Montréal.
C'est hyper clivant. Je suis désolé, les immigrants ukrainiens, il n'y a personne qui les remet en question.
Ça, c'est un autre débat. Non, mais il y a débat parce que ce n'est pas des immigrants, c'est des réfugiés.
C'est non, c'est non. C'est pas des immigrants, c'est des travailleurs temporaires. Ils ont un contrat de 3 ans
pour travailler au Canada. Ils ont créé un permis spécial pour qu'ils puissent venir travailler.
Je vous parle pas en termes juridiques, je vous parle vraiment en termes d'acceptation sociale.
Oui, ils ont l'image de réfugiés.
C'est ça, ils ont l'image de réfugiés.
Oui, mais ils ont une image de réfugiés blancs.
Oui, non, non, mais.
Aussi, il faut le dire aussi. C'est un pays européen. C'est un pays européen, il faut le dire aussi.
Déjà, les immigrés ukrainiens qui viennent au Canada, c'est pas les mêmes Ukrainiens qui arrivent à pied.
Non, on les a sélectionnés.
Non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vas à Magog, tu demandes à un immigré, d'Afrique du Nord versus un immigré ukrainien, alors que les deux ne parlent pas la langue.
Totalement.
Si t'as déjà entendu l'ukrainien, tunisien, tunisien, il n'y a plus du français, mais genre, bref, t'as compris, quoi, des langues vraiment qui ne sont pas français. Le mec de Magog va dire, oh, l'ukrainien, quand même, ça va, quoi.
Mais c'est pour
lui,
ça
il va bien, tu vois.
C'est pour ça que cette réforme,
c'est comme ça.
Je veux pas prendre la défense du gouvernement, mais comme elle est aussi audacieuse, parce que là, ce qui est annoncé actuellement, c'est aussi, il va y avoir des consultations, une étude détaillée, tout ça, donc c'est pas encore fait, tu vois, c'est pas comme coulé dans le béton pour l'instant.
Oui, parce qu'on mélange un peu, parce que t'as la réforme du PEQ qu'ils ont fait, là, ça c'est acté pour les étudiants, et aussi, en fait, tous les 3 ans, pluriannuels, ils consultent des acteurs de l'immigration. Donc, le conseil du patronat, par exemple, les gens, les organismes, etc.
Les chambres de commerce,
pour savoir à combien ils devraient mettre les seuils d'immigration. Voilà. Et tout le monde qui sont consultés disent qu'il faut exploser le truc des 50 000, il faut au moins aller jusqu'à 70. Et eux, ils ont dit, à la base, ils ont dit non. Donc, c'est ça le truc suicidaire d'augmenter. Et après, ils sont revenus. Là, ils ont dit peut-être 60. Et les consultations sont en septembre 2023.
Mais c'est pour ça. Et je pense que là-dessus, c'est pour ça qu'ils ont été quand même assez intelligents. C'est-à-dire que. Ils ont sorti la grosse campagne de francisation audiovisuelle de Jean-François Auberge avec le Faucon Pèlerin.
Ouais,
si jamais vous avez l'occasion, on vous mettra peut-être un court extrait dans le podcast.
La flemme de faire le montage. Tapez sur Internet.
Tapez pub Franco-Pèlerin. Faucon Pèlerin.
Faucon Pèlerin à Québec, puis vous allez le trouver
et
tout de suite.
Nous, ça paraît vraiment cringe à notre âge.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'avais une de mes collègues qui me disait « Oui, mais prends le quinquagénaire de Boucherville » qui lui a peur que le français recule, etc., et qui n'a rien à craindre dans son pied carré, mais c'est vrai que bon, bah, y a toujours une crainte, etc.
L'électorat de la CAQ.
Voilà, la députée de Montarville, c'est la présidente de l'Assemblée en plus.
Ben oui.
Mais ce que je veux dire, c'est que comme il y a une partie où on a été vraiment, où ils ont vraiment joué le côté bon, bah, protection du français, regardez, on fait des efforts, on est bon là-dessus, etc. On remet, on met la charte dans la charte dans C13.
Ouais.
On met la charte québécoise, etc.
C'est fédéral.
C'est fédéral, mais ils ont réussi à mettre un texte de loi québécois dans du fédéral, protéger.
Ouais, mais sauf qu'après ça, on va falloir monter au fédéral dans le sens qu'il fallait faut protéger tes minorités linguistiques. Donc, en tant que minorité linguistique au Canada, les francophones au Québec sont une minorité, mais au Québec, la minorité, c'est la minorité anglophone. Donc, c'est sûr qu'en mettant des projets de loi puis des chartes comme ça, de la charte de la langue française dans un texte fédéral, ça veut dire que ça le. Il y a plus. Ça commence à devenir plus difficile à la Cour suprême de détruire ça, tout ça. Donc, c'est ça. Donc,
politiquement, c'est fort d'avoir un texte de loi québécois dans un projet de loi fédéral.
De faire plier le fédéral pour dire on protège le français
mais
au
fédéral. Mais c'est pas faire plier fédéral dans le sens
non, mais ils l'ont vendu comme ça, on s'en fout.
Je sais, mais
pour le mec de Boucherville qu'on parle, il a l'impression que la CAQ a fait plier le fédéral.
Ouais,
il a vu petit Pat Taylor serrer la main de Roberge, puis on était en mode waouh, il y a une grosse émotion. Et après ça. On arrive vers ce projet de loi justement qui veut augmenter potentiellement les seuils. Là, tu sais, ils ouvrent encore 50 000 ou 60 000 plus le PEQ, sachant que le PEQ, ça peut monter vraiment haut là si jamais. Tu sais, tu peux faire des petits programmes, etc. et avoir ton diplôme. Enfin bref, sans rentrer dans les détails. Donc, il y a une double stratégie, je pense. Il y a le fait de faire patte blanche, regarder le français, on est bon. Mais l'immigration, on a merdé. Donc, pénurie de travailleurs, tout ce que tu veux. On met ça en place. Et on n'inclut pas en plus les travailleurs temporaires dans ce calcul, de telle manière à ce que si on a besoin d'augmenter bien plus que le seuil qui est annoncé, si on reste à 50 000 ou on débloque à 60 000, ben on a quand même le PEQ et les travailleurs temporaires qui peuvent rehausser vraiment le nombre de personnes qu'on fait rentrer. Comme ça, on fait un petit peu patte blanche. Mais c'est vrai que je ne pense pas qu'on doit l'interpréter comme un retour en arrière. Je pense qu'eux, ils veulent brander ça comme une réorientation stratégique. Et de toute façon, la CAQ est en crise là depuis le problème du troisième lien et on voit là les députés sont pas contents à l'intérieur même de la coalition.
Ouais.
Tu sais c'est le premier clash politique interne qu'ils subissent.
Monsieur Legault a eu une lune de miel de 4 ans. Il y a jamais eu une vraie ça l'a jamais vraiment pété dans son parti ou dans ses circonscriptions. Parce que, oui, les gens de Montréal étaient fâchés pour le PEQ, pour la nouvelle loi, la loi 91 là, pour le français, donc réduire les seuils de personnes qui viennent d'écoles francophones dans des cégeps anglophones. Ça le pétait à l'intérieur de Montréal, mais sauf que nommez-moi un cégep anglophone à l'extérieur de l'île de Montréal, vous pouvez pas m'en nommer beaucoup parce qu'il y en a pas. Donc, ça a été vraiment des crises.
Tu nommer un cégep à l'île de Montréal. Nommez-moi
en un.
Cégep du Vieux et...
C'est ça, déjà, il est francophone? Oui. Parce que, admettons, moi, je te parle des cégeps comme... Dawson et John Abbott qui est à Sainte-Anne-de-Bellevue.
Ah, John Abbott, j'y suis allé.
Oui, très beau. C'est...
Alors, fun fact.
Allez, voilà.
Fun fact pour des gens qui, si jamais vous aimez ça, il y a une série qui s'appelle Blue Mountain State, qui est une série sur le soccer, enfin le football.
C'est très débile.
C'est très débile. C'est genre
absolument.
C'est vibe.
Débile.
American Pie, je pense qu'aujourd'hui c'est très problématique.
Ah, ça passerait tellement pas. Ça a été retiré, je pense, d'ailleurs, de toutes les plateformes.
Oui. Genre, c'est vraiment truc, mais à l'époque, genre quand on a. Bon, j'allais déraper.
Vas-y, Coco.
Non, mais à l'époque, vous savez, dans les films.
Oh,
genre,
quand
type...
on parlait, hein, voilà, maintenant on peut plus rien dire.
Dans les films, genre style American Pie, et bah, genre, il y avait cette série-là, et toute la série, le campus universitaire qu'ils nous vendent, il est tourné à John Abbott, en bordure de Montréal. Genre,
oui, exactement, donc ça ressemble vraiment à un campus américain.
Et donc,
mais...
j'y suis allé, j'ai adoré.
Ben
chaque
oui,
instant.
Ben... Il y est allé avec sa caméra en mode gros tourisme. Genre,
non, il y a même vu la Gold House. La Gold House, elle est en décrépitude totale, elle est en train de tomber.
Tout est là-bas, en fait. Tout et genre, en fait, il tourne l'été. Il tournait durant les vacances scolaires.
Il filmait. Moi, quand je passais des fois en voiture, je voyais les. Il y avait mis des. Pour le
barricades.
Les barricades pour le stade de foot, pour le faire un peu plus grand. Il avait mis des barricades, un peu des green screen puis des fausses estrades, donc non, c'était vraiment cool. Nice. Mais pour revenir un peu à tout ça, à ton à l'électorat et tout ça, c'est juste que je trouve que c'est un peu difficile de le voir d'une autre façon que la CAQ en ce moment a un problème, et son vrai problème en ce moment, c'est comment intégrer les immigrants, même qui parlent français, au Québec en ce moment, parce qu'on a un plus gros afflux. Bon, ça part en couille.
C'est terrible. Il a voulu faire le mec, mettre une ambiance, parce que tout à l'heure, déjà, il a mis les lumières, vous pouvez pas voir, mais il a mis des lumières genre en mode j'ai un Google Home, les gars, regardez, je peux gérer la lumière sans parler. Allez, et là, il a voulu mettre une petite bougie, et il a fait tomber le truc, c'est terrible. C'est une bougie que t'as acheté à Simon Maison?
Non, à Winners. Okay. J'ai pas le budget pour Simon.
Ça.
Putain, tu veux que je le fasse? Parce que sinon, il y a des façons de faire. C'est aussi. Bon,
sinon, tu peux acheter un briquet plus haut.
Mais sinon, je peux juste continuer. Sinon, puis laisser faire parce que les auditeurs, ils s'en foutent qu'il est en train d'ouvrir.
C'est pas intéressant. Donc là, on va tomber dans une ambiance.
Honey Scuttle Nectar.
C'est quoi? C'est genre du miel?
Aucune idée, je m'en fous.
Je sais pas, c'est pour neutraliser l'odeur de la vape.
Ah cool. le gars me call out tout de suite. Mais pour vrai, je veux juste dire que le problème en ce moment de la CAQ, c'est qu'ils trouvent qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour accueillir ces immigrants-là et faire en sorte qu'ils deviennent, entre parenthèses, des Québécois comme toutes les autres. Dans le sens que je trouve que c'est ça leur gros problème en ce moment. Et ils jonglent avec énormément de variables et ils sont comme merde. C'est pour ça que pendant la campagne électorale, François Legault a dit que ça a été suicidaire, parce que si tu dis ça, c'est pour ton électorat, mais sauf que aussi, il faut que tu te mettes dans la tête que s'il dit ça après 4 ans de pouvoir, c'est qu'il sait que ça va pas si bien en ce moment, que c'est difficile pour eux de mettre ces immigrants-là au Québec, de les mettre en région, de les mettre dans la région Montréal, et qu'ils ne tombent pas dans le je vais parler en anglais, je vais aller faire dans une boîte anglaise. Parce qu'il y a des boîtes anglaises ici, tu sais, il y a des grosses boîtes qui viennent de partout au Canada. Il y a des, comment on appelle ça, des sièges sociaux de grosses compagnies canadiennes qui sont à Montréal. Le CN, son bureau à Montréal, ça parle anglais là-bas. Air Canada, un de ses sièges sociaux ici. On le sait avec, il y a 2 ans, le PDG de Air Canada qui dit moi, ça fait 10 ans que je travaille ici.
Jamais parlé français.
Donc, il y a quand même une peur de son côté. Et je pense qu'aussi, il y a une difficulté pour le gouvernement de la CAQ de trouver comment intégrer ces immigrants-là, même francophones, et les garder au Québec. Et ça part de là. Je pense pas qu'ils ont les bons moyens en ce moment. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a un retour de balancier et qu'il y a,
Mais pourquoi taper sur les immigrés et pas taper sur toutes les structures autour? Si tu forces les immigrés à parler français, ils vont l'apprendre le français.
T'es obligé de taper sur les immigrés quand tu fais de la politique.
Je vais donner un exemple.
C'est un bon moyen d'avoir des votes. Les immigrés, de toute façon, ils votent pas pour toi.
Très vite dans l'extrême.
Non, mais les immigrés, ils votent pas pour toi. Pour la CAQ, je parle.
les immigrés, ils votent Parti libéral ou QS, et même là, ils déchirent cet électorat-là.
Mais attention,
les immigrés, je parle de...
Deuxième génération, en deuxième génération, déjà, on a des gens qui votent pour la CAQ parce qu'ils sont déjà installés au Québec. Donc, c'est des immigrants de première génération ou des gens qui viennent d'arriver, c'est juste du première génération et du deuxième maximum, mais après ça... on tombe rapidement dans la CAQ. Puis regardez aussi, regardez aussi je vais te laisser après Astro, mais regardez le contingent de députés et les bénévoles qu'on voit souvent pour la CAQ. Ils commencent à avoir beaucoup de gens issus de la diversité aussi. Ils commencent à en avoir dans la région de Montréal et ils ont le même discours. Ils ont le même discours.
La jeunesse de la CAQ, par exemple, ils sont tous très blancs. Visuellement parlant.
Oui.
Ça, je disais.
Moi, je peux devenir président jeunesse de la CAQ à tout moment.
Ils essayent vraiment de mettre des gens de l'avant. Puis tu le vois dans les pubs du ministère de l'immigration et tout. Ils mettent vraiment aussi beaucoup de gens. Puis tu sais, souvent, quand ils disent venez en région, c'est pas des blancs qui mettent de l'avant aussi. C'est plus des gens. Bah, tu sais, si tu vises à attirer des immigrés, c'est toujours plus simple de mettre des gens qui te ressemblent.
C'est sûr.
Ça te donne plus envie que si c'est des gens qui te ressemblent pas. Mais pour revenir sur le point, c'est que bon, c'est pas du tout scientifique, mais. Moi, en France, je faisais de l'escrime et on a eu un. Avant que ça soit cool, on avait un maître d'armes, ça s'appelle comme ça les gens qui donnent des cours. Un maître d'armes qui venait du Qatar.
Ok.
Mais c'était dans les années 2010, donc c'était avant que je crois que le PSG soit racheté. Et lui, en fait, comme personne ne parle qatari à Aix-en-Provence, et bah, en l'espace de 3 mois, il ne parlait pas un mot de français. Il a appris. En fait, quand t'es forcé d'apprendre la langue, t'as pas le choix en fait.
Ouais.
Oui, tu vas rester avec ta communauté de temps en temps le week-end, etc. Mais tu. T'es obligé finalement d'apprendre au moins les bases. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut que le gouvernement fasse deux choses. De un, donner le boulevard pour aider les gens à l'apprendre, donner des cours, faire des horaires aménagés, faire en sorte qu'ils ne perdent pas du salaire s'ils vont prendre des cours, par exemple, une demi-journée, une fois par semaine, bah, qu'ils ne perdent pas de l'argent sur ça. Mais aussi que toute la structure autour, si tu veux aller au cinéma, il n'y a que des films en français.
Ouais.
Alors c'est terrible, mais c'est un peu le cas. Tu vois, tu vas dire, bah, soit je vais pas au cinéma, soit j'essaie d'y aller. Si tu vas dans un bar, tu veux commander un truc, bah t'es obligé, tu vas dans un resto, tu sais, genre c'est que genre il y a un peu un entre-deux et je trouve que la CAQ tape trop facilement sur les immigrés et un peu moins sur les autres.
Mais...
alors que c'est pour moi c'est pas du 50-50, mais tu sais genre c'est un comme dirait la ministre de l'immigration, c'est un Y, tu vois, avec la barre au milieu.
Ouais, c'est vrai, elle a dit ça.
Il y a dit ça à la chambre, à la truc d'accréditation.
Il y a toujours un volet déjà, ça, entre immigrés. Bah si vraiment, il y a toujours un volet genre anti-immigration, des choses comme ça, ou régulation de l'immigration dans toute campagne occidentale. Mais là où je voulais en venir, c'est plus le fait de dire est-ce que c'est pas là aussi l'un des faits saillants qui montre la différence entre une communauté d'intégration de l'immigration versus en France, nous, ce qu'on a qui est de l'assimilation de l'immigration. En France, t'arrives, on fait ton processus d'immigration, je vous parle dans l'imaginaire, hein, dans l'idée du truc, c'est l'assimilation. C'est-à-dire que tu vas t'assimiler et devenir français comme toi et moi. Donc, tu vas être un c'est pour ça qu'on dit des Français, liberté, égalité, fraternité, dans l'idée que tu as beau être français que depuis 2 ans, tu es tout aussi français que moi. Parce que tu as laissé ton identité antérieure derrière toi pour devenir ça. Les Américains, il y a quoi, il y a 50 ans, avaient aussi cette idée-là. Tu passes du melting pot au fait de dire, tu vas abandonner ton... Tu peux pas avoir la double nationalité aux States. Tu as la nationalité américaine.
Ouais, mais ils ont inventé le concept d'héritage. Genre, tu vois, par exemple, Joe Biden, là, il est américain, mais il est retourné sur la terre de ses ancêtres, là, c'est tout, en Irlande.
En Irlande, ouais,
vas-y. Donc, ils ont inventé le concept, italo-américain.
C'est vrai, oui, pardon, c'était pas le meilleur exemple.
T'as pas le droit d'être italien et américain, mais t'as ton héritage italien qu'on va pas te brimer. Genre, Joey dans Friends, très bon exemple de le moins italien, il sait même pas faire l'accent, mais il te vend son héritage italien, tu vois.
C'est vrai.
Et ils ont réussi à tuer américain avant tout. Tu meurs pour le drapeau, tu n'as pas le droit d'avoir un autre passeport, mais en même temps, on va pas chier là d'où tu viens parce qu'en fait, sinon, notre pays.
Mais tu parles américain, quoi qu'il y a quand même beaucoup de. Non, les États-Unis, oubliez mon point. Ce que je veux dire, c'est que la différence entre assimilation et intégration, elle se fait aussi sur la langue. Et c'est là où c'est vraiment important, parce qu'en France, on tolérerait jamais que tu. C'est le cas, mais c'est pas toléré. C'est que tu arrives en France et que tu saches pas parler français et que tu prennes un job où tu parles pas français, où tu parles que anglais, etc. Et c'est quelque chose qui est très mal vu. Évidemment, c'est le cas. À la Défense, évidemment, qu'il y a des boîtes qui doivent parler anglais très souvent ou dans d'autres endroits, etc. Mais
tu bosses avec l'Union Européenne, en vrai.
L'Union Européenne, l'Union Européenne, de toute façon, c'est à Bruxelles ou à Strasbourg, mais à Strasbourg.
Si tu parles avec un acteur allemand, vous n'allez pas parler ni allemand ni français, enfin, à part si tu as de la chance, mais vous allez parler anglais.
Ça. Mais le modèle d'intégration, lui, veut que tu gardes aussi une part de ta culture, une part de ton identité.
Et chez toi.
Non, mais c'est ça. comment on peut faire pour allier un modèle d'intégration où par contre on a le fait de dire oui, mais par contre il va falloir qu'on pousse les gens à parler de plus en plus, voire uniquement français, les services publics en français. Ouais. Tu vois, j'ai un petit peu du mal avec. J'ai l'impression qu'on vit comme un espèce de mensonge. On dit tu peux garder ton identité, mais quand même faut la teinter énormément de bleu.
C'est pas un mensonge parce que ça fait juste montrer l'énorme dualité qui se passe au Canada. Parce que le Québec est dans le Canada et les États-Unis en dessous, c'est un étang francophone dans un océan d'anglophones. Il y a proche de 400 millions d'anglophones pour 8 millions de francophones, tu sais, peut-être moins un peu avec les chiffres qui sont sortis des gens qui parlent français comme première langue. Donc, ça montre vraiment que le Québec essaie du mieux qu'il peut en ce moment de vouloir. Tu sais, en même temps, soit tu mets des politiques pour essayer de garder ta langue, mais en même temps, ça va venir. Si tu essaies de garder ta langue, ta langue française, puis ta langue, et la personne qui arrive ici va être obligée d'être forcée de faire quelque chose. C'est sûr et certain. Parce que, malheureusement, si tu veux garder ta langue, tu vas devoir faire des choses un peu plus, qu'on peut dire, conservatrices au niveau de ta langue. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui arrivent ici, ils vont, comme j'ai dit tantôt, ils peuvent être plus tentés d'aller travailler en anglais, surtout si tu arrives à Montréal. Tu peux travailler.
Ça dépend de ton domaine aussi. Hein. Par exemple, tous les gens qui arrivent dans la tech et tout, ils vont vouloir bosser en anglais parce que tu les vois, développement web, tous les trucs comme ça. Déjà, tous les langages sont en anglais.
Oui.
Genre, j'ai un ami à moi qui est proche. Je vais souvent faire ça aussi, des trucs de rajouter. Je sais que c'est pas scientifique, mais genre, ils l'ont engagé dans une boîte qui est américaine mais qui a un poste à Montréal. Ouais. Avec en mode le sous-texte de tu es francophone, tu vas pouvoir faire la traduction. Le mec est développeur web, mais genre ils ont tellement personne, tu vois, qu'ils se sont dit ah bah tu vas pouvoir essayer de faire des traductions sur des trucs et tout, tu vois. Et tu fais, bah lui c'est incroyable parce que du coup il a un avantage de fou, parce que bah il fait qu'il est en sorte, c'est un peu irremplaçable, mais en même temps tu te dis, c'est vrai que lui il a toujours évolué dans le monde de la tech et c'est tout en anglais. Et ce qui est pire, c'est que souvent il bosse pour des boîtes américaines qui ont des bases au Canada.
Mais c'est des avantages pour des francophones au Canada. Ou aux États-Unis dans le sens que, mettons, les fonctionnaires fédéraux ou les gens, regardez tous les gens de la Cour suprême, ils sont très, tu sais, il faut toujours qu'ils parlent les deux langues et tout ça, mais sauf qu'après ça, quand on commence à descendre dans les sous-ministres, les ministres, c'est tous des gens qui viennent du Québec rapidement ou des gens qui viennent de l'Ontario francophone parce que, vu que c'est obligé de parler les deux langues, on est obligé de. Il y a un avantage au Québec dans le sens que tu apprends le français, après ça, tu apprends l'anglais plus facile. Tu viens d'Alberta, tu apprends l'anglais. Pourquoi tu te ferais chier à apprendre le français? Tu peux faire toute ta vie en anglais. Donc, il y a vraiment d'un côté, les Québécois sont avantagés, d'un côté, pour rentrer dans la fonction publique fédérale. Mais après ça, au Québec en tant que tel, ou juste la place du Québec, où les gens qui travaillent au Québec, ben, pas vraiment. Genre, être juste seulement francophone, tu viens de la TUC, tu parles que français, tu arrives à Montréal, ça va être difficile dans le sens que les régions commencent un peu à être coupées un peu de Montréal aussi. Puis c'est ça que. Je dis pas que la CAQ, qu'est-ce qu'elle fait, c'est bon ou pas bon en ce moment, mais sauf qu'il y a un réel enjeu de les régions et Montréal.
Ah, c'est sûr.
Qui est vraiment quand même capital en ce moment et que les gens à La Tuque ou à Sept-Îles ne voient pas qu'il y a plus de gens qui parlent qui parlent plus anglais. Genre, je suis allé l'été passé à Baie-Comeau. Malheureusement, moi, quand je parle, j'ai beaucoup d'anglicisme quand je parle et ils me faisaient répéter souvent. J'étais comme, merde, faut vraiment que je parle bien en français dans le sens que je parle pas aussi bien français que je crois. Surtout dans ma langue de tous les jours. Puis ça me faisait un peu chier. Et tu vois vraiment, il est là le clash. Et ce clash-là, il essaie de le réparer. Mais en même temps, comment tu fais pour intégrer tes gens de la bonne façon, qu'ils ne soient pas tentés d'aller en Ontario ou d'aller à Montréal pour travailler en anglais? Où est l'apport du français? Où est le fun d'apprendre le français au Québec en ce moment? Puis c'est le défi capital en ce moment du gouvernement, peu importe le gouvernement qui est en place, c'est comment préserver le fait français et comment dire ouais, ça me tente d'aller travailler dans un environnement que francophone ou en majorité francophone.
Je pense qu'il ne faut pas le rendre fun, il faut le rendre obligatoire entre guillemets.
Exactement.
Ouais. Mais sauf c'est que ça là, que tu disais tout à l'heure en mode de.
Tu vas devoir froisser des immigrants pour froisser des gens qui veulent immigrer ici.
Non, parce que tu crées les conditions de. En fait, mais après ça dépend aussi des messages que t'envoies. Mais tu vois, moi si je vais au Japon, je m'attends pas à ce que tout soit traduit en français ou en anglais au niveau des panneaux, des trucs comme ça, etc. Sauf que le problème du Canada, c'est qu'il y a déjà ce concept, il y a cette brèche qui existe de on va traduire et s'adapter aux gens, tu vois. Parce qu'on pourrait très bien, c'est un bon exemple, ça, on pouvait très bien dire on va parler que français au Québec. Genre c'est terminé, maintenant on parle que français. Mais tu fais quoi à l'hôpital?
tu prends. Et en fait, l'hôpital crée les conditions juridiques de briser la logique de bah non, on va pas laisser les gens anglophones mourir parce qu'ils arrivent pas à expliquer qu'ils font une crise cardiaque.
Je prendrais plus genre... l'exemple des States avec l'espagnol pour ça, tu vois. Parce que tu prends le
Est-ce
métro New York.
Est-ce qu'ils prennent la tête les Américains sur les langues et la disparition
Non, mais ils parlent anglais, c'est ça la question. La face, c'est qu'il y a juste 8 millions de francophones. C'est ça la question.
Non, mais avec les hispanophones.
Regarde, avec les hispanophones, moi je suis allé à New York et ce qui m'a impressionné, c'est que sur mon ticket de métro, j'avais, et partout dans le métro, autant d'espagnols que d'anglais. Puis je me disais, mais t'es très bête.
Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis hein, aussi. Il n'y a pas de langue officielle.
Et quand tu regardes la Floride, en termes d'hispanophones. Mais c'est impressionnant.
Ouais.
Ouais. Et quand tu vois la classe politique, tu comprends pas.
Non, non, mais c'est. Bah, c'est surtout Miami là. C'est comme il y a un gros vote des villes aussi. Il y a cet enjeu-là. Oui. Mais le fait est que tu te dis bon, t'as un melting pot comme situation. C'est comme on a dit un petit peu un entre-deux entre les deux systèmes. Mais tu as le fait que dans le métro, qui est le système de transport lambda à New York, là, avec les taxis,
les immigrés vont plus prendre.
Parce c'est ça. Tout est inscrit dans la langue. Qui sont la plus à même de recevoir. Mais et moi, ce que je me demande, et si vous le savez, n'hésitez pas à porter la question, est-ce qu'à San Francisco, il y a beaucoup de trucs qui sont marqués en chinois, par exemple, parce qu'il y a une très forte immigration chinoise. À Vancouver, on a ça au Québec, au Canada. Mais étant donné qu'on a fixé que le français et l'anglais étaient les deux langues, c'est normal pour moi que tout soit marqué en français et anglais, parce que c'est les langues officielles.
Ouais.
Donc il faut. Mais
c'est
dans
pas
un
la langue
pays,
officielle au Québec, hein, par exemple.
La langue anglais. Officielle au Québec, c'est le français.
Français.
C'est que le français.
Mais par rapport au
niveau... C'est la
niveau
seule province,
je crois. Ouais, seule province unilingue francophone.
Mais au niveau fédéral, un site web de l'entreprise, par exemple, doit l'avoir dans les deux langues.
Oui, obligatoire.
Donc, voilà, c'est ça, moi, que je me pose comme question.
Je pense que, tu vois, les Américains, là où ils ont réussi un truc que le Québec n'a pas réussi, et le Canada peut-être y arrive, mais c'est que le Québec, c'est pas un pays. Donc, en dehors de la langue, tu vas te rattacher à quoi? Parce que les Américains... Quoi qu'on en dise, ils vont se rattacher au drapeau, ils vont se rattacher au pétrole, ils vont se rattacher à l'armée américaine. Non mais tu sais, ils ont des symboles communs de « on va se rattacher derrière quelque chose de très fort ». Le problème du Québec, c'est qu'ils ont basé, pas le problème, mais le fait est que le Québec a basé entièrement sa légitimité et son symbole quasiment uniquement sur la langue. Tu sais, que ça soit le théâtre, que ça soit tous les arts
sont
en français.
Mais c'est la culture québécoise.
C'est toujours démarqué par son aspect francophone.
Mais pas simplement ça, c'est ça le but.
Non, mais majoritairement, quand t'es immigré, t'arrives, tu vas pas connaître Gilles Vigneault, tu vas connaître Céline Dion.
Oui.
Et ben Céline Dion, sa particularité, c'est... D'ailleurs, c'est très intéressant de voir le nombre d'Américains qui pensent qu'elle est américaine.
Ouais,
c'est parce qu'elle a une résidence à Vegas.
Bah, elle fait que Vegas.
Ils ont construit le Caesar Palace pour elle, donc voilà. Mais c'est pas une blague. Ils ont construit le Caesar Palace pour Céline, pour qu'elle aille chanter là.
Pour qu'elle ait une résidence. Mais les résidences d'artistes à Las Vegas, c'est depuis qu'Elvis a fait ça, c'est incroyable de voir ce que les gens font. Bref.
Les promoteurs déplacent ciel et terre.
Ils ont, pour qu'ils restent. Parce que ça marche et les gens vont les voir toutes les semaines, tout le temps.
Sans arrêt.
Mais genre, tu vois, c'est que le Québec n'a. C'est peut-être problématique ce que je veux dire, mais ils n'ont peut-être pas assez de symboles derrière lesquels un immigrant lambda va réussir à se rattacher parce qu'il n'a pas la légitimité d'un pays, n'a pas la. Et je suis désolé, quoi qu'on en dise. Le Québec, même s'il a son étage d'immigration, le coup de sifflet final est toujours donné par le fédéral.
Mais c'est là où
quoi, n'importe quel papier là, n'importe lequel. Le CAQ, j'ai appris récemment que le CAQ, t'es obligé de l'avoir du moment que t'es accepté dans une université québécoise. C'est le seul point. Moi, je pensais qu'il pouvait quand même avoir un mot à dire sur tes finances, parce qu'il demande quand même un plan et tout. Que dalle. C'est que le fédéral qui peut faire ça. Donc, je pense que la difficulté, c'est mais pourquoi j'apprendrais la langue? Parce que déjà, je suis pas obligé.
Bah ouais.
Et ensuite,
c'est le fédéral qui choisit.
C'est difficile aussi d'apprendre une langue. Se rattacher derrière un drapeau, en mettre un chez toi, c'est facile.
Oui, mais
après,
une fois que
t'as
la langue,
culture, tu vois.
Tu sais, c'est pour ça aussi que quand tu prends des cours de langue, ils te parlent de la population. Quand tu apprends la langue, t'apprends la civilisation qui va avec, t'apprends la culture, t'apprends énormément de choses. Pour ça qu'on t'apprend pas les phrases genre bonjour, j'aimerais manger une baguette de pain.
Tu savais que les Allemands, eux, ils se coupent pas la parole parce que le locatif, le truc, il est à la fin et donc ça veut dire qu'ils sont plus patients que les gens.
Non mais c'est bête,
c'est ce
mais
tout le monde dit, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que la langue te
c'est
forme.
C'est ultra important, c'est pour ça qu'on t'apprend.
Dit-il en coupant Pierre Dominique et moi aussi.
C'était ça la vanne.
Tous les systèmes d'apprentissage des langues font en sorte que t'apprennes la culture en même temps et que tu sois pas en mode ultra fast learning. Et c'est
aussi
pour ça
la manière de réfléchir, de conceptualiser plein de choses.
Mais il y a énormément de choses qui font aussi que le Québec et le Québec aussi, genre, tu sais, il y a beaucoup plus de symboles. Moi, je suis capable de sortir beaucoup plus de symboles québécois que canadiens. T'es dans le sens, tu sais, mettons.
Ouais, mais alors, vraie question, ça va peut-être t'énerver, mais vraie question. Vas-y. Jusqu'où le Canadien de Montréal, déjà par son nom,
le Canadien de Montréal,
est un symbole québécois?
Ce sabbat québécois, oui, parce qu'il fait partie intégrante de la Révolution tranquille, selon moi, avec des acteurs énormes comme Maurice Richard, comme Jean Béliveau, comme Guy Lafleur, comme aussi
encore Bob aujourd'hui, Gainé, du coup.
Même un anglophone comme Bob Gainé, qui était un anglophone pur et dur quand il est rentré chez Canadien Montréal après le français.
Mais toi, t'arrives à voir le fait que le Canadien de Montréal, bien qu'il n'y ait que des anglophones actuels, enfin, les joueurs sont anglophones.
Mais Geoff Molson parle quoi quand il fait une conférence de presse? Il parle quoi tout le temps en français, même s'il y a un accent?
Parce qu'il sait. Au States aussi ou pas?
Il sait l'héritage. Pardon?
Aux States, ils parlent aussi en français ou...
S'il y a des gens qui parlent en français, les journalistes en français. Quand on couvre le 15e Montréal, il y a des gens, il y a deux personnes qui posent des questions en premier, peu importe c'est qui. Quand tu suis 15e Montréal, c'est des gens de, c'est un TVA, un d'RDS. Donc, et c'est deux francophones.
Il est
donc,
devenu très sérieux, très vite.
Le Canadien de Montréal, c'est un monstre.
C'est son joyau, là.
C'est mon joyau. Non, mais sauf que j'allais pas nommer que le Canadien de Montréal comme symbole.
Non, mais même au niveau des couleurs et tout, tu trouves que c'est un symbole du Québec. C'est une question, ça paraît très agressif,
oui,
mais c'est une question.
Mais un peu moins que les Nordiques de Québec, qui étaient vraiment une puissance francophone dans la Ligue nationale. Jusque dans les années 90, il y avait au-dessus de 50% de leurs joueurs qui étaient francophones.
Les Franco de Montréal, s'ils revenaient, ça serait un symbole du Québec. Non, les Expos, pardon.
Les Expos,
s'ils revenaient, c'est l'équipe de baseball.
Oui.
Parce qu'aujourd'hui, il y a plus
de... Ils sont juste là, d'ailleurs.
Ouais, c'est
on est à Griffintown en ce moment.
On est à Griffintown, donc ouais, c'est...
Ça serait non, juste mais pour ici. Toi, ça serait au même symbole que...
Oui, dans le sens que c'est Montréal, ce serait des gens... Puis surtout, tu vois les gens qui back ça. Oui, c'est des anglophones, mais sauf que c'est des anglophones qui... C'est des anglophones du Québec, dans le sens que ça ne me dérange pas que la personne parle en anglais ou en français au Québec, mais il faut se rattacher à la culture québécoise. Donc, un Geoff Molson qui rachète un Canadien de Montréal après que ce soit un Américain pendant 10 ans qu'il l'avait... Les Québécois moyens, le Québécois de n'importe où dans la région était content parce qu'il sait que les Molson, qui est une famille qui brasse de la bière aussi, ont un attachement pour le Canadien de Montréal et pour le fait français aussi, dans le sens qu'ils savent qu'ils sont une minorité anglophone et ils vont pas imposer le tout, dans le sens que la directrice des communications du Canadien de Montréal, c'est qui en ce moment? C'est Chantal Maccabée, c'est elle qui avait la première question à avoir pour le Canadien de Montréal quand elle était à RDS, dans le sens que oui, peut-être les têtes dirigeantes, mais ça reste que c'est une...
Mais tu vois, moi, un exemple très concret, je serais curieux de savoir à combien de gens je vais l'apprendre là actuellement, mais moi, avant d'arriver, je ne savais pas que le Cirque du Soleil, c'était québécois.
Ah, moi non plus. Hein.
Mais quand je suis arrivé ici...
Cirque du Soleil, j'ai pensé que c'était français?
Non, je pensais que c'était asiatique, moi.
Ouais, moi aussi. Parce que je pense que quand nous, on a grandi, c'était un spectacle tourné vers l'Asie, je pense.
Ah, moi, c'est... Oui, c'est ça.
C'est Soleil Levant ou un truc comme ça, donc c'est pour ça. Mais il y a ce côté que... Il n'y a pas une honte, mais il n'y a pas un marketing derrière le fait de regarder ça,
exactement,
c'est québécois.
Ouais.
Chris Prowls dans Fatal, vous n'avez pas vu Fatal
non.
avec Michael Youn, le mec en face qui joue Chris Prowls,
okay.
C'est Stéphane Rousseau.
Oui.
Le nombre de gens qui pensent qu'il est français.
D'ailleurs, il ne dit que ça parce que je lui ai appris que Stéphane Rousseau est québécois.
Mais tu vois, mais il y a ce côté que, alors c'est peut-être de l'arrogance purement française de penser que dès que ça parle français, c'est français.
Oui, oui, exactement.
Mais en même temps, tu vois, mais je vais donner un contre-exemple. Les Belges, tout le monde sait qu'ils sont belges en France.
C'est ça.
Que ce soit François Damiens, Angèle, Roméo Elvis,
Damso.
C'est facile, vous êtes à côté.
Non, mais il y a ce côté que eux aussi, je pense, le mettent de l'avant.
Ouais.
Il y a ce côté que Stéphane Rousseau, quand il vient en France,
change son accent. Oui, mais sauf que, mais mettons un Sugar Sammy qui vient, qui fait un spectacle bilingue aussi, qui est un très bon exemple de qui connaît, qui a pas d'accent français, pas d'accent en anglais, qui est issu d'une famille indienne.
Pas d'accent en anglais, calme-toi, toi.
Regarde Natacha Saint-Pierre, regarde Garou, regarde Céline.
Ouais.
Quand ils vont en France, peut-être moins pour
le
Céline.
Le patineur artistique, là aussi.
Mais j'ai pas la ref.
Ok.
Mais il y a quand même ce... Il y a eu un gros impact, toi-même tu me l'avais expliqué, moins depuis les années 90, mais où il y avait comme une francisation dans le sens vraiment français de France, de l'accent, tu vois, où vraiment les présentateurs télé, beaucoup de choses, cette vieille génération tendait vers le fait de prendre l'accent français. Et quand ils étaient en France, moi honnêtement, ça apparaît très bête, il n'y a pas de problème, je me ridiculise. Mais jusqu'à mes 16 ans, j'ignorais totalement que Garou était québécois.
Mais déjà, quand ils chantent, c'est différent aussi. Quand les gens chantent, ils n'ont pas le même accent.
Et aussi,
quand
celui dans Notre Dame de Paris, c'est lui qui a joué Quasimodo la première fois. C'est
ça.
Sûr et certain.
Comment il s'appelle, là, le réalisateur de films insupportables? Qu'on ne recevra donc jamais, puisque là, c'est
fermé. Xavier Dolan.
Xavier Dolan.
Tout de suite.
Je trouve qu'il a conservé ce truc de « Regardez, je suis québécois ». Il n'a pas voulu changer son accent, il a voulu s'imposer, même dans ses films et tout. Il a accepté le concept qu'il y ait des sous-titres en France, ce que j'ai trouvé terrible, mais
c'est
en même temps...
Surtout pour genre...
Bref. C'est un autre débat. Ouais, mais tu vois, il y a ce côté de « regardez, je suis québécois ». Là où Denis Villeneuve, en vrai, tu te poses pas la question, il est américain. Et puis après, tu fais « ah, mais quand même, il parle bien français ». Et puis tu fais « ah, en fait, il est français ».
Il s'appelle Denis Villeneuve quand même. Donc,
ouais.
On s'entend que...
Oui, mais tu te dis, il a peut-être une origine de gens francophones. Comme Matt Leblanc. Comme Matt Leblanc, effectivement, tu vois, c'est un bon exemple, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve qu'il y a un peu ce côté de les Québécois, ou peut-être ils devraient peut-être plus le mettre de l'avant, en tout cas moins se plier aux règles. Tu sais, on a souvent ce cliché de le Québécois est vraiment sympa.
Mmh. Eh oui.
Exactement. Et genre, il a peut-être ce côté, il devrait peut-être moins être sympa et dire non, je suis Québécois. Que Mathis
adore cette vidéo.
Je pense qu'il l'écoute au moins une fois par semaine.
Ouais, à peu près, ouais. C'est son réveil matin. Ouais, genre.
C'est extraordinaire. Aller écouter la vidéo de Mister V du Québec, qui est allé au Québec, c'est extraordinaire. C'est vraiment une meilleure dépiction. Un Français qui voit exactement le.
Mais c'est pour ça que je serais pas d'accord de dire que le Québec protège pas assez ses trésors. Non,
mais pas de l'avant, ses symboles.
Parce que ça serait peut-être un peu too much, tu vois, je veux dire, comme à la Claire Ensemble, ils mettent quand même vachement de l'avant le fait qu'ils soient Québécois, Loud, ouais, etc. Tous ceux qui sortent, les cowboys fringants,
cette nouvelle génération, mais voilà, ils sortent pas de temps.
Exactement.
Ouais, c'est vrai que Loud, la nouvelle Coréas génération, tout, ils mettent beaucoup de l'avant ce truc là
je pense qu'il y a peut-être un écart générationnel, ouais, parce que on est une génération, enfin vous, qui n'a pas connu le référendum, ou alors, ouais, qui était bébé.
Bah, c'est ça, c'est...
Voilà.
Non, personne. Et pourtant, autour de cette table était né lors du dernier référendum.
Malheureusement. Ah bon, ok. Non. Mais c'est ça, tu vois, il y avait comme... Il y a eu un train qui est passé, un train historique.
On a marqué le train, ouais.
Et moi, je vois, j'ai beaucoup d'amis nationalistes, là, pour le coup, là, vraiment péquistes, qui me disent, mais nous, on attend que ça, on est une génération qui en veut.
Ouais.
Tu regardes les sondages d'opinion, tu dis, ouais, il n'y a pas la même émulation qu'à l'époque.
Genre à 35%, tu sais, quelque chose comme ça.
Bah là, voilà, avec Pierre-Paul.
Mais ça,
Post-Saint-Pierre Plamondon. Ouais,
ouais. PSPP. Et là, lui, te fait un peu croire. Un peu.
Est-ce que le fait que l'espoir soit mort de facto, ça amène pas chez les gens aussi, chez cette nouvelle génération d'artistes, une envie, tu vois, sous-jacente de dire, ben, j'aurai jamais de référendum, je serai jamais un Québécois en tant que nationalité.
Ouais.
Par contre, dans mon art, je vais exprimer justement cette identité qui est mienne, et je vais le faire de la meilleure façon que je l'ai, en l'exprimant là-dedans.
Dans, ouais, la mouvance très individualiste, tu sais, très qu'on a en ce moment de pas renier ses origines, de les mettre de l'avant,
mais ça
de
reste
de l'avant ta personnalité.
Mais ça reste aussi que ils sont, la communauté artistique depuis la Révolution tranquille sont très nationalistes, pas non plus séparatistes ni rien, mais au moins nationalistes et très nationalistes et très fiers de sa langue, dans le sens que quand on parle à des gens de théâtre, des gens de la musique, vont rapidement se dire, t'sais, moi, mon, admettons, je sais pas moi, un Gilles Vigneault qui va dire, ben moi, c'est le grand nord québécois qui m'inspire, et qui va remettre ça dans ses chansons. T'sais, c'est vraiment, ou t'sais, mettons un Loud qui dit, ben moi, c'est Vive à Montréal, c'est Laval, t'sais, puis je vais le dire dans... C'est ça, mais tu sais, quand il parle dans ses entrevues, il est très... on s'entend,
il est chauvin.
Et cette personne-là parle très bien français, parce qu'on peut dire ce qu'on veut avec ses... Bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'il fasse beaucoup de franglais dans ce qu'il fait, mais lui, en tant que tel, essayer de le battre dans un concours de poésie française, française, ou un concours de rap battle seulement en français, ou juste comment il parle... C'en est déroutant,
c'est
pour des gens.
C'est déjà de la musique.
Non, mais c'est important.
Mais d'un autre côté, c'est pareil au Canada. En vrai, tu prends Ryan Reynolds, tu prends Justin Bieber, il n'y a pas beaucoup de gens qui... Jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y a pas beaucoup de gens qui savaient qu'ils étaient... C'est qui
Ryan Reynolds, depuis qu'il rachète les sénateurs, je pense qu'il
y a... Non, mais voilà.
Il est out, mais quand même.
Non,
il sera peut-être Snoop Dogg.
Maintenant, tu sais, on le... De plus en plus, mais même dans le Canada anglophone, les gens qui ont explosé aux États-Unis, parce que y a ça aussi, ils ne mettent pas trop de l'avant le fait qu'ils sont canadiens. Genre et d'ailleurs, OMS Survivor, c'est aussi une... je pense qu'il y a c'est aussi vrai. Ils tournent en ridicule pas mal le Canada, tu sais, être une pop star au Canada, c'est ridicule quoi. Donc tu vas aller aux États-Unis.
Il faut que tu ailles aux États-Unis pour devenir un peu plus grand, tu vois, genre.
Mais il y a beaucoup
pas rester là-bas.
D'acteurs ou de personnalités même canadiennes qui ne revendiquent pas le fait d'être canadien. Alors que par exemple, Hugh Jackman, tout le monde sait qu'il est australien.
Ouais.
Bon, déjà, ça s'entend à l'accent, mais le Canada aussi, ça pourrait s'entendre à l'accent. Mais même, il est en mode je suis australienne. Margot Robbie, je suis australien. Margot Robbie aussi, elle est australienne, tu vois. Puis elle l'a mis de l'avant aussi récemment. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, tout le monde pensait qu'elle était américaine. Il y a ce côté un peu de, en culture de, ouais, de gâcher un peu son. De vouloir être le plus lisse possible. de ne pas trop mettre de l'avant d'où tu viens. Alors
faire trop de bruit. Il y a un problème de marché aussi. Hein. Tu sais, le marché américain est beaucoup plus lucratif. Il y a une scène énorme. Tu vois, moi, je vois, ne serait-ce que dans la pop culture vraiment à notre niveau, sur YouTube, sur les influenceurs, sur beaucoup de choses. Tu sais, tu fais 10 000 vues ici.
XQC,
là.
Ouais, oui. Bah, le plus grand streamer de tous les temps, enfin, un des plus grands streamers, vient de Laval.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais des dizaines de milliers de vues ici par rapport à en France.
Ouais.
T'as pas du tout la même notoriété.
Ouais, t'es beaucoup plus populaire, entre guillemets.
Exactement. Tu sais, ici, quelqu'un qui fait des dizaines de milliers de vues, c'est suffisant. Là, ouais. C'est un gros YouTuber, ouais. Une grosse influenceuse, ouais. Quoi que ce soit. En France, c'est rien du tout. T'es un parmi tant d'autres parce qu'il y a 60 millions de pélos sur le territoire. Ici, on a 11 à peu près au Québec.
8,5.
Ouais, tu vois, j'étais loin du truc. Donc, la scène n'est pas la même. Et donc, du coup, à la fin, bah, tes revenus ne sont pas les mêmes. Ta manière de t'exprimer est différente. Et je vois, les artistes, il y a des épicentres. Tu vois, Montréal est un énorme centre artistique.
Ouais, vraiment.
Et évidemment, ça va, pour le reste du Québec, ça pose problème. Et tu as toujours des petits artistes locaux, des super peintres près de la Gaspésie.
Mm-hmm.
Tu vas avoir des artistes magnifiques en région, etc. Mais il y a une attirance pour les gros centres. Et après, le fait qu'ils s'exportent, je pense que c'est juste une question d'offre et de demande à la fin. Parce que tu vas à Hollywood, même si ça va être tourné tout à Vancouver, tout va être tourné à Montréal. C'est à Hollywood que tu vas réussir à percer en tant qu'acteur. Donc, il y a aussi cet appel et cette offre où il faut aussi que je fasse des choix par rapport à moi.
Mais il faut, est-ce que ça tente d'aller à Hollywood? Parce qu'il y a des gens qui, tu sais, on a des acteurs au Québec qui ont fait leur carrière complètement ici. Tu sais, des gens, mettons, genre Roy Dupuis.
Mais est-ce que tu seras aussi connu? Autant d'argent?
Non, mais sauf que la fin, c'est est-ce que c'est toujours par rapport à l'argent?
Ah non, mais bon.
Parce qu'au Québec, tu peux très bien gagner ta vie aussi. Puis c'est ça aussi le but de la Révolution tranquille, c'est d'avoir créé un star system québécois, dans le sens que au Canada, ils ont leur prix Juno. Nous, on a nos prix. Puis nos prix, nous autres, au Québec.
Félix.
Oui, les Félix pour la chanson qui sont quand même assez une assez grande vitrine pour les artistes. Ça reste que c'est très différent du reste du Canada parce que c'était ça le but de la Révolution tranquille, c'était vraiment de créer un pocket de vraiment une espèce de poche de culture au Québec pour dire qu'on est une culture distincte et on l'est aussi. C'est pas à dédaigner. Donc oui, c'est sûr que quand tu sors de là, c'est sûr que malheureusement t'es plus dans... T'es un peu comme un Denis Villeneuve qui a commencé au début à faire des films ici au Québec qui sont très bons et qui a décidé de faire le saut, lui.
Mais voilà, c'est ça. C'est lui que j'avais en tête.
Mais tiens, mettons un Pods qui a fait 19-2, qui a fait aussi un film avec Jean-Marc Vallée qui est super bon. Jean-Marc Vallée aussi qui a fait Crazy, qui est un film incroyable.
RIP.
Oui, RIP Jean-Marc Vallée, malheureusement.
Oui, il est décédé subitement.
Oui, subitement, j'ai été choqué. Mais tiens, mettons un Pods va toujours rester ici, il ne fait que de la... Il est un peu le Xavier Dolan du Québec, il est très intelligent, il est très bon, il est très un peu révolutionnaire pour ce qu'il fait dans son art, mais lui a décidé de rester au Québec. Dans le sens qu'il y en a qui restent, il y en a qui partent, et je pense que c'est un peu difficile, et je suis pas malhonnête, mais de leur dire, ouais, pourquoi ils mettent pas tant de l'avant le fait qu'ils sont français, ben dans le sens que... Tu vas en France, tu parles français, ça prend une seconde de pouvoir de dire « Bon, ben, je vais faire mon accent, je vais le descendre un peu, boum, ça va passer.
Ouais. »
Et t'es pas obligé de faire tout le temps par rapport au... Puis tous les humoristes commencent à parler que du Québec.
Non,
tout
mais
le
tu
temps,
vois, t'es... est-ce que Harry Styles, quand il va aux États-Unis, il change son accent aussi? Qui lui a quand même un accent assez prononcé anglophone. Anglais.
Ouais.
Tu vois, il y a aussi ce côté de... Je pense que c'est la part, mais tout ça pour revenir au point de départ où on était aussi,
ouais.
Que genre, je pense que c'est par rapport à des symboles. Et tu vois, là, on a un débat hyper long sur la culture, la mettre de l'avant, ah, oui. etc. Et si nous, déjà, à notre échelle, on a ça, bah, tu sais, c'est sûr que c'est compliqué, mais je pense que tout simplement, ça manque de symboles québécois, genre vraiment mis de l'avant. Mais c'est un tout. C'est les immigrants qui s'y intéressent pas forcément. C'est pas forcément
mis de l'avant. Et c'est malheureusement les gens de Montréal que quand on met trop de symboles de l'avant, c'est quoi ces affaires-là?
C'est une dictature.
C'est une dictature où qu'est-ce qui arrive? On est revenu dans le temps de Maurice Duplessis. Le gouvernement de la CAQ essaie de mettre de l'avant des symboles beaucoup plus québécois, se fait traiter de Duplessis souvent en disant pourquoi tu fais ça, tout ça. Dans le sens qu'il y a comme un...
Dans les livres, là, dans les Renaud Bray et trucs comme ça, l'équivalent des FNAC, en gros, un peu en France, genre, c'est si tu mets de l'avant les trucs, ils ont voulu mettre à un moment de l'avant vraiment que les livres québécois et pas mettre les livres anglophones. Ils, bah, ils, vraiment, ils ont été de fascistes, quoi. Tu fais voilà.
Mais d'où la puissance de la pub sur le Faucon Pèlerin. Ça paraît bête à dire, mais tu sais, quand il a justement serré la main de Petit Pat Taylor, etc., elle lui a offert une petite peluche de Faucon Pèlerin et tout machin. Et c'est le fait de dire aussi, bon, bah, va falloir à un moment qu'on travaille sur ce truc-là, parce que en fait, c'est un travail en continu, c'est jamais fini, en fait, la défense de la langue historiquement, etc. On est sur un territoire qui ne peut pas se prétendre comme un pays européen qui a des littéralement milliers d'années d'histoire derrière lui, etc. Donc,
et qui ne peut pas s'agrandir aussi.
Voilà, qui ne peut pas s'agrandir. Donc, sans immigration, bah, tu vas mourir, là, tout simplement, ou être conquis par une autre culture, par des trucs comme ça. Donc, tu as besoin d'entretenir ton vivier. C'est vraiment un jardin. Tu as besoin de l'entretenir, tu as besoin de ramener de l'engrais, tu as besoin de faire pas mal de choses, pas mal de travail. Je pense que le travail qui est nécessaire est quand même assez énorme. Bien plus que ce que peuvent connaître des pays qui sont déjà établis, qui ont déjà des frontières, déjà beaucoup de choses qui sont mises en place depuis très longtemps et une tradition autour de ça. Ici, il faut s'adapter constamment avec un flux de travailleurs international. Faut pas oublier, là, tu sais, on a des gens qui viennent d'Inde, on a des gens qui viennent d'Europe, on a des gens qui viennent d'Afrique subsaharienne, etc. Et tous ces gens-là, tu dois les mettre sur un nouveau territoire, nouveau entre grandes guillemets, mais tu sais, 300 ans d'histoire, 150 de vraiment système politique un peu indépendant. Donc, là, il faut mettre un peu maintenant, je pense aujourd'hui, et c'est important, des balises où on dit, ok, où est-ce qu'on marque la frontière pour la défense du français. Et ils ont pris l'exemple, donc pour expliquer un peu le Faucon Pèlerin, d'un documentaire animalier où justement, bah, on reprend un peu les expressions cool des jeunes de
le
Montréal.
Le Faucon Pèlerin est chill.
Ouais, c'est ça.
Il est vraiment très chill de faire comme ça. C'est des choses que des gens de notre génération vont pouvoir faire. Ah, ben oui, c'est vrai, des fois. Je parle comme ça.
Je parle comme ça. Et c'est un problème parce que quand on prend un truc documentaire animalier qui est souvent très sérieux et qui veut.
Surtout au Québec, celui qui fait le documentaire animalier, c'est Charles Tissard. C'est celui qui fait Découverte le dimanche soir à Radio-Canada depuis genre 35 ans. Ça faisait un gros clash de voir quelqu'un qui avait une très belle voix, mais qui disait « chill ».
C'est ça.
Où est-ce qu'on est, tu sais?
Donc, ouais, le créer des symboles, c'est jamais trop facile. Sans taper sur les immigrants, moi, juste pour revenir rapidement là-dessus, parce qu'il va falloir doucement qu'on arrive à une conclusion.
Mais comme conclure bientôt.
Moi, je vois moins ça comme une attaque des immigrants qu'une attaque du fédéral. Faut pas oublier que la CAQ essaye de se la jouer encore un peu nationaliste. Et le fait de dire « on veut pas se faire imposer des quotas par Ottawa ». On ne veut pas se faire imposer X milliers d'immigrants chaque année qu'on ne pourra pas intégrer, qu'on ne pourra pas franciser. Et à la fin, c'est vrai que la Constitution fait que, ben oui, Québec a quand même un palier que les autres provinces n'ont pas, mais il va se faire imposer des immigrants par Ottawa.
Ouais.
Et on a vu récemment des chiffres qui montrent qu'il y a des demandes francophones qui sont comme mis derrière par rapport à des demandes anglophones.
C'est que t'as, s'ils prévoient d'accueillir 500 000 immigrants par an, au Québec, il n'y a pas de frontière, même s'ils ont leur propre police, ils ne vont pas la foutre à la frontière du Québec. Puis, genre, c'est...
Non, mais après ça, est-ce que ces gens-là vont vouloir venir au Québec? Parce que c'est toujours ça, le point, la rétention.
Pourquoi pas?
J'arrive ici,
parce qu'ils vont savoir qu'ils sont mal accueillis.
Je suis afghan, je parle anglais, ou syrien, je parle anglais, un anglais un peu bâclé, mais ça va parce que j'ai ma langue. J'arrive ici, ils me disent, bon, venez, vous avez le choix entre Toronto, Montréal, puis Vancouver. Tu regardes ça, tu fais... Ben, je vais prendre Vancouver ou Toronto parce que ça parle juste anglais. Il y a le petit.
Ouais, mais il n'y a pas que ça. Il y a les opportunités économiques.
C'est vrai, mais il y en a un.
Il y a les opportunités économiques. Il y a le communautarisme ici qui est très puissant.
Ouais.
Tu as des communautés, ce qui est très mal vu en France, par exemple, mais qui ici est très accepté parce que la culture est différente. T'sais, je veux dire, tu as des quartiers. C'est pas pour rien qu'on dit le quartier italien. Il y a le petit Maghreb,
la petite Italie.
Oui,
le petit Maghreb, le quartier chinois.
Mais
déjà, on a un vrai truc. La petite Italie, c'est un pays. Le petit Maghreb, voilà, déjà, c'est une région. Là, la Tunisie, le Maroc, c'est pareil. Ok, les gars.
Normal.
On dit pas la petite Europe, on dit la petite Italie.
Non, mais tu vois, c'est pour ça. Oui, parce qu'en plus, il y a le quartier juif, littéralement.
Oui.
Donc, tu vois, il y a un communautarisme qui fait que.
Quartier français.
On peut avoir.
Le plateau.
Oui, non, mais c'est bête. Mais voilà.
Quartier chinois.
Sans parler de ghettoisation.
Il n'y a pas d'appauvrissement ou de sécularisation de cette population-là. Cette population-là, c'est vraiment une place où ils sont, mais il y a des... la ville reste connectée. Montréal, c'est une ville quand même qui se marche très bien, qui est connectée rapidement avec beaucoup de choses. Donc, même si tu peux. Tu sais, on y va souvent dans le quartier chinois, on va au resto ou tout, tu vois.
Le truc, c'est que le gouvernement, quand tu sors de ces quartiers-là ou quand tu sors de ces trucs-là, il faut que tout le monde, si tu es au Renobré, le mec qui vient du quartier chinois, du quartier de la petite Italie, peu importe d'où ils viennent, ils vont parler français, ouais. Ils vont dire merci, bonjour, au revoir, tu vois. Donc il y a aussi ce, je pense, cette nécessité de, des institutions, il faut qu'elles s'imposent un peu, en tout cas. Mais après, c'est vrai que tu te fais tout de suite taper, c'est, électoralement, c'est pas payant.
Personne mais c'est pas pour payant, attraper c'est ces immigrants, il faut pas oublier, les immigrants votent pas. Ou en tout cas, s'ils votent, ça veut dire qu'ils sont là depuis assez longtemps.
La plupart sur ceux on parle actuellement ne peuvent pas voter.
Voilà, c'est ça, exactement.
Donc, ni toi ni moi ne pouvons voter. On la ramène beaucoup, mais on peut pas voter.
Pas encore. Donc, c'est
pour ça retardé, les amis. Allez.
C'est assez important. Et puis, tu parlais justement pourquoi on attirerait un Afghan, etc. Il ne faut pas oublier que l'immigration se fait aussi beaucoup par des regroupements familiaux. Il y a beaucoup de choses qui font, tu sais, je suis arménien, j'ai un cousin qui est à Montréal, j'ai telle ou telle accroche actuellement qui permet de me dire, je vais aller à Montréal et je serai dans une communauté où, de toute façon, je serai en sécurité, que je pourrai pratiquer ma culture, ma langue. Et donc, je pense pas qu'il y ait une grosse rétention non plus à venir au Québec. Je pense que le Québec est une bonne porte d'entrée pour beaucoup d'immigrants. Et je pense pas qu'à Montréal, en tout cas, il y ait une telle ségrégation anti-non-francophone. Mais c'est ça qui fait, je pense, le clash entre Montréal et les régions. Et Montréal est très mal vu aussi
à l'extérieur.
À l'extérieur.
Mais oui, et surtout Québec qui est un monstre francophone qui est quand même commence. Ils sont sur le bord d'avoir le million d'habitants. Ils sont très contents, le petit village. Mais ils sont contents parce que eux autres, t'arrives à Québec, impossible que tu te fasses dire bonjour, hi. C'est toujours bonjour. Et c'est rare que les gens parlent en anglais là-bas et les gens qui sont là-bas. Mais l'affaire, c'est que c'est ça, c'est que le point d'entrée des immigrants arrive à Montréal et ceux qui veulent aller à Québec le font le choix d'eux.
Parce que t'as pas d'aéroport international à Québec. Non. C'est bête, mais c'est un point d'accès énorme.
Oui, l'aéroport Jean-Lesage, c'est un aéroport international, mais sauf que c'est... Oui, mais sauf que
le hub est à Montréal.
Oui, c'est
Pearson.
Qui va à Jean-Lesage, je sais pas. Okay.
À part dans les vols intérieurs, mais...
Même Ottawa.
De l'international, qui vient...
Mais c'est un aéroport international.
Oui, mais qui...
Ottawa aussi, mais c'est un aéroport international de tourisme.
Mais c'est un aéroport international aussi, beaucoup de
bah, pour le gouvernement, là.
Ce gouvernement, donc... Les diplomates,
les gens d'affaires, quoi. Les
premiers ministres, c'est là qu'ils partent tout le temps avec... Mais c'est tout.
Tu regardes la frontière, c'est pour avoir passé la frontière et y avoir passé pas mal de temps à Toronto et à Montréal, le déploiement de Immigration Canada est énorme. Je veux dire, c'est des bureaux entiers qu'il y a dans l'aéroport.
Ouais.
Donc c'est comme, tu sais, quand tu fais tes papiers justement, tu dis où est-ce que tu vas arriver et ces deux résultats arrivent en premier. Tu vois ce que je veux dire? C'est des portes d'entrée et après derrière de toute façon. Il y a aussi cet aspect-là, et puis désolé de rallonger le podcast mais c'est important.
On peut terminer là-dessus, on va terminer sur ton point.
Quand tu as des permis de travail, tu n'es pas forcément libre non plus d'aller travailler dans n'importe quelle province. Parce que si tu veux continuer ton immigration derrière, tu as des conditions à remplir. Ouais. Puis c'est ça aussi, quand tu fais ton permis de travail, ce qui est énormément d'immigration, il ne faut pas l'oublier, cette immigration économique, tu ne pourras pas changer, tu ne peux pas dire je vais au Québec, puis après je vais aller en Ontario.
Même quand tu as la résidence permanente, hein. Quand tu as la résidence permanente, dans les 5 premières années, tu signes un contrat avec la province, c'est dans les papiers que tu as à remplir, pour dire que tu restes dans les 5 premières années au minimum dans la province dans laquelle tu as fait ta demande.
Et
tu peux toujours changer.
Mais il est là le but du gouvernement.
Non, mais demain, tu as un emploi à Ottawa, par exemple, tu vas aller là-bas, tu vas pouvoir justifier du fait que tu es parti, pas parce que tu avais envie, parce que tu avais une opportunité, machin. Mais sur le principe... Il faut que tu restes normalement dans la 5 premières années dans la province. En tout cas, sur 5 ans, normalement, tu es censé passer la moitié de ton temps au Canada. Cette moitié de temps-là est censée être dans la province à partir de laquelle tu as demandé à t'établir. Parce qu'ils considèrent que tu as
dit.
Et après, tu peux aller où tu veux.
Et
après, souvent, tu peux demander la nationalité.
Il y a le rôle
du
gouvernement. Le gouvernement, on préfère là-dessus. Le rôle du gouvernement, c'est pendant ces 5 années-là de lui faire aimer la province dans laquelle il est. Au Québec, le défi est double dans le sens qu'il faut faire aimer le français, apprendre le français aussi, et de se dire après ça, je vais rester ici, je vais faire ma vie ici. Tu vois. Donc écoutez les gars, c'était une super discussion. Je pense qu'on est parti d'un sujet. Après ça, on a fait, on a parlé de culture, on a parlé de France, on a parlé des États-Unis, on a parlé du Canada, du Québec. J'ai vraiment aimé ça, pour vrai. J'aime beaucoup notre nouveau format revampé.
Vous avez dû voir une différence en termes de qualité d'ailleurs.
Oui, j'espère pour vrai que vous aimez ça. Et donnez-nous dans les commentaires aussi, dire que si vous aimez notre nouvelle qualité. On est en train de faire des tests pour avoir du matériel très de qualité. Et j'aimerais peut-être terminer sur on fait toujours nos petites, nos petites recommandations. Et moi, je vais commencer en ce moment, comme toujours, et parce que je veux que le monde l'écoute. Donc, j'écoute toujours à Sandpiker sur Twitch. Et en ce moment, si vous vous posez des questions, surtout les gens québécois qui nous écoutent en ce moment, par rapport à tout ce qu'ils disent, par rapport au woke, par rapport à aussi tout ce qui par rapport aux drag queens qui font l'heure du compte, que les gens essaient de framer ça d'une certaine façon, quand... Hassan réussit très bien de vulgariser des discours et ce qui se passe dans la communauté et voir un peu comment en tirer. Ici, on commence toujours par l'empathie et par qu'est-ce que ça fait pour vrai dans la société. Ben on va être gagnant. Donc, je vous laisse toujours écouter Hassan, toujours très intéressant. Et même si vous ne l'aimez pas, essayez de l'écouter. Puis à un moment donné, vous allez comprendre que vous avez tort. Donc, Astro,
non, c'est pas vrai. C'est juste que j'ai pas ton temps, moi.
Bah, c'est ça.
Toi, t'écoutes tout en live, non?
Ouais, j'écoute tout en live, moi. C'est mon deuxième écran.
Moi, je sais ce que je vais pouvoir vous recommander. C'est un truc que j'ai regardé récemment, c'est incroyable. C'est sur YouTube. Peut-être qu'il y a plein de gens qui connaissent, mais je m'en fous, c'est quand même incroyable. C'est la chaîne Ina, Archive, qui est incroyable. Et notamment, il y a un documentaire de Ina sur les Français sont-ils racistes? Ça dure 20 minutes. Et c'est incroyable, c'est en 1963, je crois, ou en 1964, ça date d'un reportage de cette année-là. Déjà, tout ce qui est INA Archive, c'est incroyable, sachez-le, parce que c'est vraiment genre, ça vous fait passer un saut dans le temps, et c'est fou de voir que la problématique de comment intégrer un immigrant, par exemple, qu'on a parlé aujourd'hui, ou c'est quoi les parcours de vie, etc., comment franciser ces gens-là, à l'époque où il n'y avait pas Internet, notamment, c'est vraiment intéressant de voir, enfin même, c'est fascinant, de voir ça, de voir le côté décomplexé. C'est incroyable quand on leur dit il y a des questions pour vous donner envie. C'est on va voir des gens dans la rue, on leur dit est-ce que vous êtes raciste? Non. La personne va répondre non. Mais disons que votre fille ramène quelqu'un d'Afrique subsaharienne et qu'elle veut se marier avec, est-ce que ça vous dérange? Ah oui, bien sûr, ça me dérange, je ne veux pas. Mais vous êtes raciste? Non. Et vous considérez qu'il y a un problème avec les juifs? Oui. Tu fais, wow, c'est fantastique. Le mec dit ça dans la rue en 1963 en France. Enfin, c'est intéressant de
gymnastique mentale.
Ouais, non, mais de voir la conception qu'ont les gens. Et c'est fascinant. Vraiment, c'est fascinant. Et vraiment, c'est incroyable. Donc, vraiment, c'est ma recommandation. En plus, dans le thème. Pidou, toi, t'avais une petite reco?
Alors, moi, c'est pas dans le thème. Mais c'est quand même un petit truc que je recommande parce que j'ai beaucoup aimé voir ça. Alors, ça va être une pub pour un autre podcast. Qui s'appelle Entre Mecs de Ben Nevers.
Ah oui, c'est vraiment bien.
Qui est vraiment, vraiment incroyable. Et pour pitcher ça rapidement, en gros, c'est quatre, la plupart du temps, mecs qui donc parlent de différents sujets. Moi, celui sur lequel j'avais accroché, je crois que c'était l'amour, avec Spider-Z, notamment un musicien, rappeur français. Et en fait, c'est comme très décomplexé. C'est un petit peu comme nous, mais... Ils parlent justement de leurs sentiments, leurs différentes manières, mais dans un espèce de safe space entre mecs où d'habitude, moi, je vois avec mes potes, je n'ai pas une aussi grande ouverture, une aussi grande... dans ma tête, je ne me laisserais peut-être pas autant confier. Voilà. Et eux, ils se confient comme ça en public, en plus sur YouTube, mais dans une atmosphère très relaxe. Et j'aime beaucoup ça parce que ça... On parle beaucoup de masculinité toxique, etc. ces derniers temps, mais justement, quand on voit des exemples de l'inverse, où on essaie de parler à cœur ouvert, on voit que un peu l'autre côté du spectre dont on parle plus rarement.
C'est toxique parce qu'on parle pas.
Voilà, c'est ça.
Et qu'il y a ce côté, moi c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que quand tu l'écoutes, tu as l'impression d'avoir eu ces conversations, mais tu les as eues tout seul dans ta tête.
Exact.
Ouais. Tu aurais bien aimé les avoir. Genre ton rapport que tu as à la sexualité, par exemple, ou que tu as par rapport au porno, c'est fascinant. Parce qu'on est tous allés sur des sites porno à 12-13 ans, par là 14 ans. Plus jeune, plus tard.
12 quand même, frérot, tu pousses.
Mais il y en a un sixième, il y en a plein.
Ah non, mais
sixième, c'est 12 ans.
Il y en a même moins, c'est terrible là d'ailleurs.
C'est un sujet
qu'il faudrait vraiment.
Et genre, tu te dis, c'est fou, je n'en ai jamais. Même à mes meilleurs amis, je n'ai jamais parlé de ce que. C'est fascinant quoi, alors que tout le monde le fait, tu vois, il y a un tabou fou et il brise ce truc là, Ben Nevers, et c'est incroyable. Et en plus, c'est des gens qui sont un peu dans l'ordre public, donc c'est encore plus, c'est encore mieux.
Ouais. Donc, parfait. Voilà. Et ma deuxième recommandation, parce que je suis pas dans le thème, donc du coup je me permets d'en faire deux, c'est le Père Mathieu, c'est un prêtre catholique français que j'avais connu à l'époque sur TikTok avant le Covid, et il est absolument pas en mode profession de foi où je répands la bonne parole, loin de là. En fait, il explique deux, trois trucs un petit peu sur la religion, il répond à des questions, et puis là il a lancé un truc qui s'appelle le confessionnal, où il reprend un peu un système de confessionnal, mais où il parle un petit peu de spiritualité avec Gad Elmaleh notamment, avec Morgan aussi, etc. Alors pour l'instant que des figures un petit peu publiques, mais pas sur le mode le catholicisme c'est trop bien, mais au contraire genre plus l'inviter, comment il voit la spiritualité, quel est son lien avec ça. Et puis pour Gad Elmaleh, c'est vraiment intéressant, un juif chrétien,
parce que, ouais, mm-hmm.
Et c'est super intéressant. Morgan c'est plus une artiste, etc. Et c'est la plupart du temps pas des gens qui pratiquent ou quoi que ce soit, mais ça voit aussi que la spiritualité ça dépasse un peu ces frontières là.
Donc ouais, c'est plus une chaîne de spiritualité que religion chrétienne, quoi.
C'est cool, ça. À écouter pour vrai. Mais écoutez les gars, pour vrai, good. Puis on va faire un petit chin avec
un petit
nos
chin.
Bières.
Je suis le seul à avoir fini ma bière.
Moi, j'ai pas encore terminé,
mais j'ai presque fini.
Écoutez pour vrai, les gars. Merci, merci Pidou, merci Astro, c'était Raddy the Brown. Puis écoutez,
et merci Raddy.
Écoutez, à bientôt. Merci, puis à bientôt tout le monde.
Bye. Ciao.